Cette moralité du travail comme une fin en soi est évoquée dans de nombreux témoignages, par exemple celui de Clément. Clément a occupé ce qu'il décrit comme un job à la con dans le service de gestion des financements externes d'une université publique du Midwest. Pendant ses heures creuses, c'est-à-dire la plupart du temps, il surfait longuement sur le web pour glaner des infos sur les points de vue politiques alternatifs. Jusqu'au jour où il a découvert que la majeure partie des fonds transitant par son service était étroitement liée à la guerre menée par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Il a alors démissionné pour aller travailler à la municipalité, à la grande consternation de ses collègues. C'était un poste beaucoup moins bien payé. Le boulot y était plus difficile, mais il était un minimum intéressant et utile à l'humanité. Ce qui frappait Clément dans son ancien job, c'était le fait que tous ses collègues se croyaient obligés, les uns devant les autres, de faire semblant d'être accablés de travail. Pourtant, personne n'ignorait qu'il n'y avait quasiment rien à faire. Clément. J'entendais tout le temps mes collègues expliquer que c'était une semaine super chargée et qu'ils travaillaient comme des malades, alors qu'en général, ils quittaient le bureau à 14 ou 15 heures. Comment ça s'appelle un tel déni public d'une réalité claire comme de l'eau de roche? Je n'arrête pas de repenser à ça, à cette pression qu'on fait peser sur nous pour qu'on se juge nous-mêmes et qu'on juge les autres à l'aune de l'ardeur que nous mettons à un boulot qu'on n'a jamais eu envie de faire. Pour moi, c'est un état d'esprit qui flotte dans l'air qu'on respire et qu'on diffuse tous dans nos conversations quotidiennes. C'est comme un réflexe, un principe fondateur des relations sociales. Si vous ne vous détruisez pas mentalement et physiquement dans un job salarié, vous ne vivez pas comme il faut. Et qu'on n'essaie pas de nous faire croire qu'on se sacrifie pour nos gamins. On ne les voit jamais. On passe toute notre putain de journée au boulot. Clément estime que cette pression est particulièrement sensible dans la culture du Midwest américain, imprégnée selon lui de protestantisme germanique. D'autres parlent de puritanisme. Mais c'est un sentiment qui ne paraît pas limité aux environnements protestants ou nord-atlantiques. Il existe partout. Seul varie le degré et l'intensité. Que conclure de ces réflexions ? Si le travail tire une partie de sa valeur du fait qu'il est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, alors, symétriquement, ce que l'on a envie de faire doit relever davantage du jeu ou du hobby. En d'autres termes, toute activité à laquelle on est susceptible d'avoir envie de consacrer son temps libre ne mérite aucune récompense matérielle, y compris pécuniaire. Voilà qui résonne incontestablement avec ma propre expérience. La plupart des universitaires vous diront qu'ils ont été attirés par cette carrière, à l'origine, parce qu'ils se passionnent pour le savoir et les idées. Et c'est vrai. Pendant les 7 années que vous passez à bûcher pour obtenir votre doctorat, vous n'ignorez pas que vous pourriez tout aussi bien faire 3 ans de fac de droit et démarrer dans la vie professionnelle avec le double de salaire. Pourtant, quand 2 profs du même département se rencontrent à la machine à café, croyez-vous qu'ils parlent de leur amour du savoir ou s'enthousiasment pour des idées? Pas du tout. Dans 99% des cas, ils se plaignent de crouler sous la paperasse. De fait, on l'a vu, les universitaires doivent consacrer de plus en plus de temps aux tâches administratives, au détriment de leurs activités de recherche. Mais l'explication n'est pas là. Ce qui se passe en réalité, c'est que l'on considérerait comme indélicat de votre part de laisser paraître que vous prenez plaisir à votre travail, alors que d'autres n'ont manifestement pas cette chance. Et c'est vrai même si vous êtes au beau milieu d'un projet follement excitant. Sans doute, certains milieux académiques sont-ils plus anti-intellectuels que d'autres. Mais le sentiment général est bien celui-ci. Les aspects plaisants de votre métier, par exemple le fait de pouvoir réfléchir, ne sont pas ce qui vous vaut votre paye. Ils sont plutôt de petits plaisirs occasionnels qui vous sont octroyés en reconnaissance de votre vrai travail, qui est de remplir des formulaires. Au moins, les activités de recherche font-elles partie de la description de poste des universitaires, quelle que soit la réticence de leur hiérarchie à l'admettre. Dans le monde de l'entreprise, c'est pire. Réagissant à mon article de 2013, Jeff Schulenberger, qui enseigne l'écriture créative à l'Université de New York, a fait remarquer que de nombreux employeurs estiment désormais ne pas avoir à rémunérer les tâches qui sont gratifiantes d'une quelconque manière. Schulenberger. Pour Graeber, les jobs à la con sont porteurs d'un impératif moral. Si vous n'êtes pas occupé en permanence à quelque chose, et peu importe ce que c'est, vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Or, le revers de cette logique semble être « si l'activité X est quelque chose à quoi vous prenez réellement plaisir, qui a pour vous une valeur et une signification, qui comporte une récompense intrinsèque, vous avez tort de vouloir être bien payé pour vous y livrer. Vous devriez le faire gratuitement, même, et particulièrement, si en cela vous permettez à d'autres de réaliser des profits. En résumé, on va faire notre beurre grâce à vous pendant que vous ferez ce que vous aimez, gratuitement. Mais on va vous garder sous contrôle en nous assurant que vous soyez obligé de gagner votre vie en faisant ce que vous détestez. » Schulenberger prend un exemple. Traduire tout ou partie d'un document d'une langue vers une autre n'est pas une chose que beaucoup de gens feraient pour le plaisir, en particulier s'il s'agit d'un document technique aride. Cependant, on peut concevoir que certaines personnes y trouvent une gratification autre que pécuniaire, parce que ça leur permet de perfectionner leurs compétences linguistiques, par exemple. Ainsi, lorsqu'une traduction est nécessaire, le premier réflexe d'un chef de service va être de tenter de la faire gratuitement par l'un de ses subordonnés. Ce même chef ne verra aucun inconvénient, en revanche, à lâcher de coquettes sommes à des vice-présidents pour le développement créatif ou autre type très occupé à ne rien faire. Mieux, il est probablement lui-même un vice-président pour le développement créatif qui passe ses journées à trouver des entourloupes pour faire bosser les autres à l'œil. Schulenberger voit là l'émergence de ce qu'il appelle le bénévolariat. Les entreprises capitalistes récoltent désormais moins les fruits du labeur d'une main-d'œuvre rémunérée que d'une pléiade d'individus qui travaillent gratis. Stagiaires, fanatiques d'Internet, militants, bénévoles et autres passionnés de tout poil. Simultanément, comme dans le métayage agricole, elles pratiquent le digital sharecropping, exploitant, privatisant et commercialisant le produit de l'enthousiasme et de la créativité populaire. Ironiquement, l'industrie du logiciel libre est devenue paradigmatique de ce phénomène. Retrouvons Pablo, celui qui nous a introduit à la notion de rafistolage au chapitre 2. Souvenez-vous de son constat. Pour mettre au point un logiciel, les opérations se répartissent entre des tâches intéressantes et stimulantes, celles qui servent à développer les technologies fondamentales, et un travail fastidieux consistant à rafistoler ces technologies à l'aide de gros scotch pour qu'elles puissent fonctionner les unes avec les autres, leur concepteur ne s'étant jamais préoccupé de leur compatibilité. Résultat, les tâches véritablement passionnantes sont de plus en plus souvent effectuées bénévolement. Pablo. Il y a 20 ans, les boîtes ne voulaient pas entendre parler des logiciels libres et concevaient les technologies fondamentales en interne. Aujourd'hui, elles se reposent majoritairement sur l'open source et n'emploient plus de développeurs que pour rafistoler ces technologies de base qu'elles obtiennent gratuitement. Du coup, vous avez des gens qui, le jour, aux heures de bureau, se tapent tout le boulot de rafistolage, pas du tout valorisant, et s'éclatent la nuit en bossant sur leur cœur de métier. Cela crée un drôle de cercle vicieux. Puisque les entreprises trouvent facilement des gars qui acceptent de développer les technologies de base pour pas un rond, elles ne sont pas incitées à investir. Ce sous-investissement nuit à la qualité. On a des technologies inachevées, truffées d'imperfections, de bugs, etc., ce qui, en retour, accroît le besoin de rafistoleurs et encourage la prolifération de ces jobs. Paradoxalement, plus les développeurs participent de manière désintéressée à une création collective en réseau, heureux d'offrir ce cadeau à l'humanité, moins ils se soucient de la compatibilité de leur logiciel avec d'autres semblables, et plus ils devront eux-mêmes passer du temps à réparer les dégâts dans leur job de jour, ce travail de maintenance que personne n'accepterait de faire bénévolement. Pablo conclut. Pablo. Je parie qu'on va bientôt voir apparaître des dynamiques de ce genre dans d'autres industries. Par exemple, plus personne ne va vouloir payer les journalistes professionnels, étant donné qu'on trouve des gens qui ne demandent qu'à écrire des articles gratuitement. À la place, l'argent va aller irriguer les secteurs des relations presse ou de la pub, et finalement, la qualité de l'information va baisser par manque de financement. Soit dit en passant, ce mouvement est déjà largement amorcé. Les journaux et services d'information qui emploient de vrais reporters se font de plus en plus rares. Mais je souhaite moins ici détricoter les divers aménagements de travail complexes et opaques que produit cette philosophie que souligner tout simplement qu'elle existe. Nos attitudes à l'égard du travail ont changé. Pourquoi ? Comment se fait-il que, pour tant de gens, il soit devenu moralement plus acceptable d'avoir un boulot pourri et inutile que pas de boulot du tout. Un coup d'œil à l'évolution des idées sur le travail à travers l'histoire va nous permettre de répondre à ces questions.